fort et reclus. Avisez !
Forêt reclus à l'Elysée, émission qui n'appartient à personne en particulier, ni à aucun groupe ou collectif, comprenne qui peut. Donc nous sommes sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Alors il y a maintenant un audio blog où vous pouvez écouter et télécharger et faire circuler les meilleures émissions donc, de Forêt reclus. Donc l'adresse c'est audioblog.arteradio.com/fort-et-reclus-à-l'Elysée. Alors là, c'est tout attaché et sans accent. Donc je répète une dernière fois. audioblog.arteradio.com/fort-et-reclus-à-l'Elysée. Donc, ceci étant dit, j'ai de mauvaises nouvelles parce que dimanche, ben, ça va être la fête des mères. Et fin juin, c'est la fête des pères. Donc, qui perd gagne? Eh bien, nous, aujourd'hui, nous gagnons, puisque nous avons par téléphone Théophile Giraud, car il y a eu le 15 mai dernier la fête des non-parents. Donc, on va parler de tout ça après les Ramones avec Beat on the Boîte.
Beat on the Brat. Beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat. Beat on the brat. Beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
Forêt reclus à l'Elysée sur Radio 103. Donc nous avons le grand plaisir et l'immense honneur d'avoir donc Théophile de Giraud, qui est un fou littéraire vivant, qui est dans le Blavier et donc qui est auteur du livre, entre autres, L'art de guillotiner les procréateurs, manifeste antinataliste, et de l'importance de procréer. Donc l'importance de procréer date de 2000, et L'art de guillotiner les procréateurs, ça date de 2006, si je ne me trompe pas, Théophile.
Tout à fait, oui. Bonjour à tout le monde. Je me permets quand même de rectifier le titre du premier bouquin que tu mentionnais, c'est de l'impertinence de procréer. L'important, c'est de ne pas procréer, justement. Donc,
d'accord, c'est, oui, voilà, c'est de l'impertinence. De l'impertinence, voilà. Pardon. D'accord, très bien. Parce que donc, le 15 mai à Paris, il y a eu la première fête des non-parents. C'est
tout
ça.
Tout à fait, oui, exactement. Pas vraiment la première fête des non-parents. On avait fait une première édition l'année dernière à Bruxelles.
Ouais.
Et puis, comme beaucoup d'amis parisiens n'avaient pas pu faire le déplacement, on s'est dit, bon, bah, il faut faire ça sur Paris, toucher un autre public, voilà, et avoir une autre manière de fonctionner aussi, puisque l'année dernière, seule Corinne Maillard, l'auteur de nos guides, était parmi nos invités. Et cette année-ci, bon, bah, on a ajouté Noël Moudin, le fameux Jean d'Arport, et Laure Noualla, qui est une journaliste écologiste à Libération, et qui se bat un petit peu pour les idées des natalistes, voilà.
Très bien. Et alors, comment ça s'est passé ce 15 mai, Théophile?
Ben, ça s'est passé plutôt bien, parce qu'en fait, on a eu beaucoup plus de public qu'on s'y attendait. Il y avait une centaine de personnes, alors que bon, il y en aurait eu 20, on aurait déjà été heureux, voilà. Et puis aussi, ce qui a été assez chouette, parce que ça va faire des vagues au-delà de l'événement lui-même, c'est la présence de pas mal de médias. Là, on a été très surpris que beaucoup de médias audiovisuels, y compris la télévision suisse romande, d'ailleurs, soient intéressés et viennent tourner un reportage pour relayer un petit peu le discours. Donc, on est vraiment très très heureux. Ça s'est passé de façon jubilatoire, voilà, bien rigolote, avec parfois des moments de tension, hélas, mais ça faisait partie du jeu. Il y avait parfois des intervenants un peu plus agressifs, donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours été vraiment totalement entre nous ou entre Child Free, basé sur les mêmes visions des choses. Donc voilà, il a une fois de plus fallu se défendre un petit peu par rapport aux gens qui ne sont pas d'accord avec les idées de Child Free, des natalistes ou antinatalistes.
D'accord, donc ils étaient assez agressifs, les opposants à ça, alors.
Pardon ?
Ils étaient assez agressifs ce jour-là,
oui.
Les opposants au Child Free.
Oui, voilà, enfin, c'était pas bien grave, mais disons qu'on aurait voulu que plus de gens pour prennent la parole et un petit peu moins de gens contre. Donc là, il y a eu des débats. Une fille qui a un petit peu énervé Corinne Maillard au début, donc ça, voilà, ça a commencé avec un petit peu de stress, mais heureusement après, la barque a été bien redressée, notamment par une superbe intervention de Noël Godin qui nous a fait cadeau d'un petit texte qu'il avait écrit dans le TGV pendant son trajet aller et qui était totalement dans la lignée de l'anarchisme antinataliste, voilà, donc en montrant bien que devenir parent, c'est devenir esclave du système et passer à côté de la réjouissance. Donc on a énormément ri et puis, je veux dire qu'on a bien bu aussi, voilà, on a prolongé jusqu'à assez tard, on a même terminé l'after des afters vers 6h du matin chez Laure Noualla de façon très, très chouette et rigolote. Donc voilà, nous on est vraiment super heureux, on a eu pas mal de chouettes retours et puis ça a fait beaucoup de vagues aussi sur internet, notamment sur des sites totalement réac, ça c'est très drôle, il faut pas plus prendre le temps de lire les commentaires de sites catholiques, traditionnalistes ou français de souche aussi qui est un site totalement réac, j'ai encore lu quelques commentaires vraiment odieux, on comprend même pas comment ça peut passer, mais voilà. Donc voilà, ça conduit à...
En même temps, ça rassure aussi.
En quelque sorte.
Oui.
Pardon ?
Ça rassure aussi de que ce soit les réacs et tout ça qui réagissent comme ça, c'est un peu normal, quoi. Ça serait...
Oui, c'est tout à fait normal. Oui, oui, on s'y attendait. Ce qui est plus étonnant, à vrai dire, c'est que ces gens sont tellement un peu, tout à fait idiots, c'est qu'en fait, ils continuent à faire de la pub pour un truc qu'ils combattent quelque part, tu vois. Donc ça, c'est assez marrant. Sur le site français de souche, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 400 commentaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que sur ces sites-là qu'on se fait un petit peu carboniseux avec tout le temps les mêmes arguments des dates. Il y a aussi sur le site Rue 89, qui est quand même un chouette média en ligne, où on fait un rock. Bon, bah, là, il y a plein de commentaires hyper négatifs, hyper, hyper violents. Donc, on sent que c'est un sujet chaud, tabou. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut bouger au niveau de cette thématique-là parce que peu de gens osent en parler, il y en a qui se cachent, et en même temps, c'est un sujet de société crucial. Donc voilà, c'était un petit peu le but de la fête des non-parents aussi, c'était pas seulement se retrouver entre nous, créer des contacts, bien se marrer, c'était aussi affirmer notre existence et revendiquer le droit d'être respecté dans nos choix.
Oui, il y avait un discernement de médailles aussi, je crois.
Oui, on a, c'est Frédéric, donc la co-organisatrice, Frédéric Andrin, qui a eu cette idée l'année dernière. Donc il s'agit d'un petit ruban rouge qui fêterait, comment dire, honneur de fête de mariage ou n'importe quoi, qu'on attache avec une épingle à nourrice dans les vêtements des gens. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a suspendu à cette épingle à nourrice un préservatif. Voilà, ouais. D'où le nom de la médaille du mérite écologique. Voilà, utilisez les contraceptifs et ne faites pas d'enfants dans le but de protéger la planète. C'est un petit peu le clin d'œil.
Faites l'amour, pas des mômes, c'est ça.
Quoi ?
Je dis faites l'amour, pas des gosses.
Voilà, faites l'amour, pas d'enfant, exactement, oui.
Voilà, parce qu'il y a la citation aussi de Noël Gaudin, donc, beaucoup de gens connaissent donc l'Entarteur, et c'est faire des lardons et contre-révolutionnaire, ça gagatise et ça rend con.
Oui, c'est dommage que le texte ne soit cité que partiellement, parce que c'est
oui,
totalement croustillant d'un bout à l'autre, c'était du tout grand Noël Gaudin. Mais c'est vrai, voilà, ça gagatise et c'est contre-révolutionnaire quelque part, parce que énormément de gens qui ont des gosses, oui. Même quand ils sont de gauche ou même à nord, ou etc., donc des personnes avec des chouettes valeurs et tout, qui ont envie d'un peu changer le monde, vont dire « ouais, mais moi je peux pas me permettre ça parce que j'ai une famille à nourrir ». Donc ça, c'est le gros argument de certains planqués qui préfèrent vivre leur petit train-train quotidien plutôt que de prendre des risques au niveau de leur vie pour essayer de faire bouger les choses, quoi. Donc Noël a tout à fait raison de dire ça. Et c'est vrai que c'est une idée qui a été développée par les anarchistes français, principalement au début du siècle. Voilà, il y avait un grand courant antinataliste dans l'anarchisme.
Oui, on va en parler juste après, justement, Théophile, de toute cette historique-là. Sinon, je tiens juste à dire que pour Noël Gaudin, c'est l'excellent anthologie de la subversion carabinée. Voilà, et puis là, on écoute un peu de musique encore et on revient tout de suite après.
Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils et canons font dans le monde des entailles, couvrant les morts, les plaines et les ballons. Puisque les hommes sont des sauvages qui réunit la fraternité, femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre les barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire, qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
Forêt reclue à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Et donc sur internet www.perilieu103.org. Je commence juste avec une petite citation. Un Américain très avisé que j'ai connu à Londres m'a assuré qu'un jeune enfant en bonne santé et bien nourri constitue à l'âge d'un an Un mets délicieux, nutritif et sain. Qu'il soit cuit en dos, au pot, rôti à la broche ou au four. Et j'ai tout lieu de croire qu'il s'accommode aussi bien en fricassé ou en ragoût. Donc, ça, tu dois connaître sûrement, Théophile. Ça, c'est Jonathan Smith. Donc,
Jonathan Smith dans La modeste proposition à l'usage des enfants d'Irlande, c'est ça. Hein.
C'est ça. Alors, en entrée, c'est
magnifique, oui.
Ces modestes propositions pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Et ça date de 1729. Voilà. Donc, on vient d'écouter La grève des mères et avec les amis de ta femme. Et donc, justement, Théophile, tu vas nous parler un peu d'histoire sur les Malthusiens et tout ce qui a été fait pour empêcher la natalité comme ça.
Ben, c'est vrai que c'est un courant qui était très très important dans l'anarchisme, voilà, notamment au début du XXe siècle en France, des gens comme Paul Robin, Armand aussi, qui a très très fort travaillé dans ces directions-là, ou bien Jeanne et Jeanne Humbert, Sébastien Faure, enfin voilà, il y avait un grand courant antinataliste et néo-malthusien dans l'anarchisme, mais c'est un petit peu perdu pour les différentes raisons qu'on pourrait tenter d'analyser, mais disons que leurs arguments étaient assez intéressants. Donc c'est d'abord, il faut voir aussi que c'était le contexte de la Première Guerre mondiale, et donc il y avait le refus d'alimenter le système, de donner de la chair à canon à l'armée, à l'État. Et je veux dire, ça c'est un message bon, mais qui reste un petit peu d'actualité, parce que fin des gosses, c'est de toute façon mettre au monde un nouveau travailleur consommateur, qu'on le veuille ou non. Donc il y a là toute une réflexion à redévelopper peut-être à ce niveau-là dans l'anarchisme même, parce que c'est vrai que non seulement ça libère les mains pour agir, mais c'est aussi une façon de protester terriblement contre le système. Mais c'est pas pour rien que les critiques à l'égard des chefs-fruits sont très très souvent, c'est un cliché en matière de critique, c'est si vous faites pas d'enfants, qui va financer les pensions futures? Donc ça c'est le concept. De l'enfant billet de banque, du bébé dollar, qui est absolument abject, puisqu'on ne pense pas à l'enfant dans ce cas-là, mais on pense uniquement à sa rentabilité. Voilà, donc, il semble que d'un point de vue éthique, ça, c'est totalement à côté de la plaque. Donc, voilà. Et c'est vrai que ce courant, en fait, des anarchistes antinatalistes, ben, fait l'objet de violentes réactions de la part de l'État à l'époque. Il faut savoir que la propagande antinataliste était totalement interdite par la loi. Et donc, on a des gens comme Jeanne et Jeanne Humbert, par exemple, qui ont été condamnés à plusieurs années de prison simplement parce qu'ils revendiquaient le droit à la contraception et à l'avortement bien avant que ça ne passe dans les lois en France. Donc, il y a eu des gens courageux qui se sont battus pour ces idées et déjà à l'époque, ça dérangeait très très fort le gouvernement.
Donc, tout le courant néo-malthusien ou des natalistes, tout ça, machin, pourquoi ça n'a pas justement perduré, justement, face à la force répression?
Pourquoi ça s'est perdu un peu?
Oui.
Mais c'est la bonne question. Je n'ai pas trop d'idées à ce niveau-là, je t'avoue. Je n'ai pas analysé la transition, à quel moment ça s'est vraiment perdu. Ben, je crois que ça avait, voilà, peut-être une raison d'être plus radicale et plus fondamentale à l'époque, puisque la contraception et le droit à l'avortement n'existaient pas encore. À partir du moment où ces droits ont enfin été conquis, ben peut-être que le combat s'est dirigé vers autre chose. Il y avait peut-être d'autres thématiques plus urgentes. On a qu'un mai 68 qui est arrivé. Il y avait des raisons plus politiques aussi d'agir pour changer concrètement le système. Donc c'est passé un petit peu à la trappe, d'une part parce que la victoire a eu lieu, ce qui est pas mal, et puis parce qu'il y avait peut-être d'autres préoccupations. Et puis en troisième hypothèse, disons, c'est peut-être le fait que le désir d'enfant dépasse tous les clivages politiques et idéologiques, et que peut-être même certains anars se sont sentis blessés dans leur désir. C'est vrai qu'un anar, bon, ben, il ne faut pas trop lui dire ce qu'il a à faire, une personne, donc, et surtout pas brider son désir.
Oui, c'est
donc
sûr.
C'est vrai que voilà, c'est pas mal aussi que des anars aient totalement pu accepter leur propre désir d'enfant pour être fidèles finalement à eux-mêmes. Mais on constate quand même qu'il y a quelque chose d'assez incohérent aujourd'hui à ce niveau-là, puisque il y a des discours réactionnaires qui peuvent venir de certains anarchistes même, voilà, en nous taxant d'un, non pas d'un civique comme le gouvernement, mais de gens qui sont à la limite, au contraire de ce que disait Noël Godin, contre-révolutionnaire, dans la mesure où si les gens de gauche, les progressistes, ne font pas d'enfants, ce sont les capitalistes qui vont en faire, et donc il n'y en aura plus qui auront de belles valeurs dès la naissance. Alors, moi, ça me fait un peu rire, parce que là, on en revient à l'idée de la réification et l'instrumentalisation de l'enfant. Oui. On fait de nouveau un petit soldat, donc c'est le même discours, je veux dire, tristement, que le Vatican, que toutes les religions. Donc, moi, je crois qu'il faut dépasser ça et penser à l'intérêt de l'enfant avant tout. Et pour moi, ben, l'enfant, il est clair qu'il doit venir, s'il doit venir dans le cadre d'un amour et d'un respect, et qu'il doit venir au monde pour lui-même, pour sa propre réalité, et pas pour être au service d'une cause quelconque. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à renourrir au niveau du combat, parce que c'est vrai qu'il y a, moi je propose dans le manifeste antinataliste une grève de la procréation qui sera un outil de combat peut-être intéressant, un outil symbolique bien entendu, mais ça sera un message fort envoyé au système. Ça serait de dire, voilà, écoutez, tant que le monde ne devient pas un petit peu plus fréquentable, un petit peu plus lumineux, rayonnant et joyeux, ben on refuse de vous donner de nouveaux esclaves, de nouveaux consommateurs, de nouveaux travailleurs, de nouveaux soldats. Donc on change le monde d'abord, et puis quand il est vraiment chaud à vivre, ben alors on y remet de nouveau des enfants. Donc là, on peut faire pression pour que les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits de l'homme en général soient respectés par tout sur terre. Et voilà, je crois que ce sera une petite journée de combat symbolique qui éventuellement à mettre sur pied. Voilà, la grève de la procréation. Et c'est une vieille idée, bien entendu, puisque Lysistrata, dans Aristophane, chez les Grecs, proposait déjà cette idée-là pour mettre fin aux querelles interminables des mâles surmusclés. Bah, les femmes, intelligemment, ont dit, bah, ça suffit, maintenant, on baisse plus avec vous et on fait du gosse tant que vous faites la guerre. Et ça a marché.
C'était très bien.
Mais de façon plus réaliste, cette idée a été reprise par des étudiantes finlandaises au début des années 2000. Il y avait un projet de construction centrale nucléaire dans leur région. Et alors, elles ont envoyé une pétition au gouvernement. Il y avait des centaines de signatures de femmes, de jeunes femmes, qui s'engageaient à ne pas faire d'enfants si cette centrale était construite, considérant que l'environnement allait être détruit. Ça faisait planer une menace sur l'avenir des enfants. Et donc, voilà, elles ont tenté de faire pression de cette façon-là. Je ne pense pas que ça ait vraiment réussi, mais voilà, comme quoi c'est une initiative qui naît spontanément dans l'esprit des gens, quoi. Et ça serait peut-être à remettre un petit peu au goût du jour.
Ouais, elle a été faite, c'est ça l'important. Et ça veut dire quoi, Schald Fouet, pour ce... Qu'est-ce que ça veut dire, Schald Fouet?
Schald Fouet, d'accord.
Pardon. Bah,
Schald Fouet, c'est un terme anglais, évidemment, oui. Donc, qui signifie littéralement « libre d'enfant ». Donc, c'est... le contraste avec childless, ceux qui n'ont pas d'enfants, mais childless était un petit peu ambigu parce que ça pouvait signifier aussi ben, ceux qui ne peuvent pas en avoir pour des raisons biologiques, donc les gens stériles. Et donc les child free ont pris un terme plus clair et plus revendicateur en disant clairement nous on est libre d'enfants. Donc ça c'est formidable, l'idée de liberté est incluse dans leur définition d'eux-mêmes. Voilà, on a très difficile de traduire ça peut-être en français.
Oui.
Il y a eu des propositions sans enfants par choix ou des trucs comme ça, mais c'est plus long, ça sonne moins bien. Et comme aujourd'hui, ben, tout le monde parle un petit peu anglais, je trouve que le terme de child free dit bien ce qu'il veut dire, quoi.
Ouais. Bon, on va écouter Didier Super avec toi au Brésil.
Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Bah moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler, comme au Brésil. Et tous les jours tu nous fais des petits dessins, des petits bonhommes, des maisons et des soleils. On te dit jamais rien, sinon après tu chiales. Mais en fait tout est des sables, c'est vraiment de la merde. Les enfants, ils ont pas de talent. Faut les brûler, comme au Brésil. Puis tu dis à tout le monde que quand tu seras grand, tu vas devenir cascadeur, vétérinaire ou bien pilote de chasse. Mais déjà trouve-toi du boulot et après on en reparle. Les enfants, ils ont des grands yeux. Faut les brûler comme au Brésil.
Ouais, ça va,
et toi le petit chinois, qui bosse à l'usine. Tu es vraiment inconséquent. Ton contrat de travail, tu le négocies tellement mal que du coup ça se répercute sur mon système social. Les enfants, mais merde, et normalement c'est guitare là, c'est guitare, oui. 1, 2, 3, 4.
Les enfants, faut les brûler. Dans ton Brésil, faut les priver de dessert. Comme on a su, faut les rendre encore plus bons comme que leurs parents. Comme chez nous.
Et quand un vieux monsieur te fait l'amour, même si t'as pas forcément l'âge pour y prendre goût, c'est pas marrant pour un vieux qu'on lui rappelle son âge. Alors sois poli et simule.
Foire reclue à l'Élysée sur Radio 103. Donc Théophile, quels sont les arguments pour ne pas faire d'enfants en fait?
Bon, ils sont très nombreux, évidemment, mais disons que moi, je propose de les classer un petit peu en trois catégories. Il y a trois démarches, finalement, dans le refus d'enfanter. C'est d'abord la démarche altrui, qui est totalement personnelle, individuelle. Donc, c'est le refus de faire d'enfant parce que, tout simplement, on ne s'en sent pas capable, ou on n'en a pas envie, ou on a mieux à faire de sa vie. Donc, ça, c'est vraiment la grande thématique altrui. Même celle-là, c'est l'objet, donc, comme on l'a dit, de pas mal de critiques. On est accusé d'incivisme, d'égoïsme, enfin de n'importe quoi, alors qu'on pourrait se demander si c'est pas parfois les gens qui font des enfants qui sont égoïstes, mais bon, voilà. Alors la seconde bonne raison, c'est pour des raisons écologiques, c'est ce qu'on appelle les dénatalistes, qui préconisent une diminution de la population mondiale. On est évidemment beaucoup trop nombreux, les ressources épuisent, ça peut provoquer des conflits, ne serait-ce que pour l'eau, pour le droit d'accès à l'eau, donc ce sont des guerres qui sont prévisibles d'ores et déjà. Or on voit que les gens continuent à surpeupler une planète déjà beaucoup trop peuplée. Donc il y a de bonnes raisons en effet pour penser comme Yves Cochet, qui est ce député écolo qui avait proposé il y a un an à peu près de supprimer les allocations familiales à partir du troisième enfant. Il ne proposait même pas, comme Jonathan Swift, de les manger ou de les envoyer à ceux qui ont faim. Pourtant, c'est une idée de recyclage qui pourrait être très intéressant. Non, il proposait juste de supprimer les allocations familiales à partir du troisième enfant. Donc, il s'est pris une immense volée de bois vert de la part de plein de politiciens, y compris écolos, de toutes tendances. Et parmi les rares journalistes à avoir réellement défendu Yves Cochet, c'est précisément Laure Noala, qui était une de nos invitées à la fête des non-parents samedi. Elle a vraiment pu comprendre son discours, qui n'est même pas si radical que ça. Par exemple, Henri Bergson, déjà en 1932, donc on était peut-être deux ou trois fois moins nombreux qu'aujourd'hui, certainement même trois fois, eh bien, il proposait, dans les pays où la population surabonde, sur ses propres termes, il proposait de taxer carrément les enfants en nombre excédentaire. Donc ça, c'est encore pire que supprimer les allocations, on taxe carrément, une manière comme une autre peut-être de réduire le déficit budgétaire. Donc voilà, ça c'est la motivation écologique. Et puis, disons, il y a une motivation, alors là, qui est encore plus radicale que les child-free ou les dénatalistes, ce sont les antinatalistes, dont je fais partie. Donc ça, ce sont les gens qui refusent d'avoir des enfants pour des raisons philosophiques, on va dire, donc en considérant que le monde est de toute façon moche, que la vie en elle-même ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue, qu'il y a plus de douleur que de jouissance dans l'existence, que c'est relativement pénible d'exister, donc c'est autant dispenser un enfant qui n'existe pas à venir au monde. Donc ça, ce sont des positions qui ont été très bien démontrées par Schopenhauer, Suran, Roland Jacquard. Je me situe un petit peu dans cette ligne-là. C'est une vieille thématique, c'est une sorte d'invariant anthropologique. On trouve ça dans toutes les cultures, à toutes les époques. Voilà, finalement, mieux valait ne pas naître, quoi. Voilà, donc, voilà, ce sont les trois grandes catégories, j'irais, de gens qui préfèrent se dispenser de la corvée d'avoir des gosses.
Ouais. Et est-ce que le discours, justement, par rapport à l'écologie n'est pas trop moraliste, justement, de dire que d'avoir des enfants pourrit encore plus la planète, etc.
J'ai pas bien compris. Donc, tu parles du côté moraliste?
Oui.
Dans l'écologie?
Oui. Par rapport à ça. Parce que...
Écoute, je ne sais pas si on peut parler de point de vue moralisateur, parce qu'on claque toute défense de valeur et moralisateur. Moi, j'aime pas trop la morale dans le sens où la morale, elle repose sur l'arbitraire public, l'arbitraire du plus grand nombre. qu'elle est imposée aux gens, d'une part, par des lois, oui. Et que d'autre part, ben, elle est rarement fondée d'un point de vue rationnel et philosophique. Donc moi, je préfère vraiment parler d'éthique, qui est vraiment, là, je crois, ça fait partie de notre combat, je crois, en tant qu'anarche, en gens de gauche, progressiste, etc. C'est une volonté de donner le maximum de jouissance au plus grand nombre. Et je veux dire, il n'y a qu'une règle, je crois, quand on veut résumer la pensée anarche, c'est faisons tout ce qu'il nous plaît, sauf porter préjudice à autrui, sauf bien entendu aux gardiens de prison et à ceux qui méritent qu'on leur rentre dans l'art, ça c'est certain. Mais voilà, je crois que c'est une position éthique que les écolos dénatalistes proposent. C'est pas du tout une façon de moraliser, une façon de châtrer les gens ou les emmerder pour les emmerder. Je veux dire, c'est un appel à la raison. Moi, je suis contre toute forme, bien entendu, de contraintes au niveau gouvernemental. Oui. Mais il y a certainement un discours à faire passer, et des valeurs à transmettre, une réflexion à susciter. Et donc, moi, je crois que si on argumente bien par rapport aux gens, il est totalement superflu de pratiquer ces taxes qui vont nouveau être imposées par le gouvernement dont on n'a rien à foutre. Mais c'est simplement faire appel à la raison. Et on peut aussi éduquer les gens dans ce sens-là, leur ouvrir les yeux. Et ça, c'est tout le travail qui reste à faire. Parce qu'il faut briser un tabou, il faut aller contre un désir, peut-être là, effectivement, très égoïste et irresponsable de certains de faire des gosses à tout prix. Voilà, il suffit d'encourager. Moi, je suis beaucoup plus pour l'encouragement que pour l'interdiction, bien entendu. Mais on pourrait vraiment imaginer, c'est ce que je préconise dans mon manifeste antinataliste, on pourrait imaginer de donner de l'argent à ceux qui n'ont pas de gosses. Voilà, une femme qui reste sans enfant, touche des allocations de non-procréation. Donc là, on peut faire l'inverse que de taxer, on peut récompenser, ce qui est autrement rigolo. Et je suis sûr que ça marcherait bien.
Ce serait bien. Puis, qu'il y ait une éducation, justement, par rapport à ça aussi. Qu'il y a autre chose qui existe, de se marier, de faire des gosses, et voilà. Parce que tout le conditionnement qui est fait aussi, enfin, voilà. Ouais. Et on va juste écouter la poule aux œufs d'or d'Anne Sylvestre, et après, on continue.
Black la poule aux œufs d'or veut garder son trésor. Black la gallinacée veut plus se faire trousser les fatigues et de pondre, fatiguée de se faire tondre les plumes sur le dos, d'aligner les cadeaux pour se faire pardonner d'avoir le cul doré. La poulette est la main. Car toujours est le pont. Elle se dit pourquoi ponge, cette question la ronge. Plus elle se morfond, plus on lui répond pont, 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 pont. Plus on lui répond pont. Ma peau, v'là que la poule aux œufs d'or ferme son coffre-fort. Black la gallinacée à l'arrière-train français, elle voit pauvre poire revendiquer sa gloire par ses gros maquignons qui guettent à son croupion pour peu qu'ils lui fournissent quelques grains de maïs. La poulette et la malle, elle a mal au trou de balle, car toujours est le pont, 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 car toujours est le pont. Pourquoi ponge, cette question la ronge. Plus elle se morfond, plus on lui répond pon, 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 pon. Plus on lui répond pon, ma pon. Mais la poule aux œufs d'or fait plus aucun effort. Mais la gallinacée à la tripe coincée, épondez-lui vous-même. Ce n'est pas son problème. Gardez vos laxatifs, vos pruneaux purgatifs. La cocotte, elle veut plus se casser le cul. La poulette et la malle, elle a mal au trou de balle. Depuis le temps qu'elle pond, 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 depuis le temps qu'elle pond. Elle dit pourquoi pondais-je, ça m'a ruiné le siège. Lâchez-moi les crampons, plus jamais j'entends pon, 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 plus jamais j'entends. La poulette et la malle, elle a mal au trou de balle. Et jusqu'aux amygdales, peau de football, football, c'est la grève totale.
Donc Théophile de Giraud, n'est-ce pas? On va parler un peu de tes livres quand même si t'es pas là pour ça, je sais bien. Donc c'est l'art de guillotiner les procréateurs. Manifeste antinataliste, t'es paru en 2006, aux éditions oui. Le Mort qui trompe, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est bien ça.
Et de l'impertinence de procréer en 2000.
Voilà, oui.
Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça?
Bah, le tout premier, de l'impertinence de procréer, bon, c'est vrai qu'on se trompe souvent sur le titre, justement, mais d'une part, il n'est pas toujours bien compris, mais ça dit clairement ce que ça veut dire, c'est la non-pertinence de procréer, de mettre des enfants au monde. Bon, ça, c'est une sorte d'ovni littéraire. Je me suis complètement amusé à faire des montages typographiques par ordinateur, introduire des images, des montages, des collages, tu vois, informatiques, tout à fait délirants. Et c'est ce qui m'a valu, tu vois, d'être pris de façon, je trouve, hyper amicale et sympathique de la part d'André Blaville, voilà, d'être oui. pris dans ces fous littéraires, parce que je ne suis pas un fou littéraire dans la mesure où je sais ce que je fais, j'ai de la distance, je ne pars pas dans des théories totalement délirantes, parfois un peu, mais sans plus, et je le fais un peu exprès. Donc, voilà, disons que je corresponde avant à la définition dont Queneau parlait ou que Blavier utilisait à une certaine époque d'hétéroclite, donc ceux qui sont un petit peu hors courant, tu vois, de toute pensée dominante, qui viennent avec des idées fort personnelles et qui n'ont évidemment aucun suivi, aucun disciple, etc. Mais donc, ce fou littéraire, bon, là, c'est une grande fleur, comme le dit si bien André Stas, qui a très bien connu André Blavier, un tout grand collagiste belge, André Stas, et bon, mais c'est clair que Blavier m'a fait une fleur, et je crois qu'il n'a pas fait cette fleur pour rien, parce qu'en réalité Blavier était lui-même terriblement antinataliste.
Oui.
Et voilà, et puis il a vu l'objet totalement fou, loufoque, et puis c'était surtout un homme d'une extrême bienveillance, donc c'est ce qui m'a valu de me retrouver dans les fous littéraires. Mais tu vois, ce bouquin qui traitait déjà cette thématique et qui reprenait déjà un petit peu tous mes arguments, ben, il est totalement illisible. Moi, je t'avoue, je ne suis jamais réussi à aller jusqu'au bout des 430 pages. Je suis bloqué à la page 121 depuis des années parce que c'est vraiment chiant à lire. C'est vraiment barbant.
Je voulais l'acheter.
Je te le déconseille, c'est vraiment hyper barbant, tu peux l'acheter pour te promener dedans, parce que c'est vrai que c'est rigolo, c'est impressionnant, c'est un livre d'artiste si tu veux, c'est un livre loufoque, c'est un livre bizarre, mais c'est vraiment pas à lire, quoi, c'est assez affûté, c'est un objet rigolo, on va dire, ça s'arrête un peu là.
Bon, t'es un ami, mais, alors, si tu me le déconseilles, d'accord.
Ouais, voilà, il est vraiment, en plus, il est pas du tout diffusé, et moi, tu vois, quand je dois en envoyer un exemplaire à quelqu'un, ben, vu les tarifs postaux exorbitant de l'État belge, ça me coûte quelque chose comme 20 euros, un truc du genre, tu vois, rien pour l'envoyer, parce qu'il pèse 2 kilos, c'est quasiment le poids d'un bébé à la naissance.
3,250 kilos, t'aurais dû faire.
C'est 3,250 kilos
en moyenne, ouais.
Bon, c'est un vrai temps prématuré, alors, ouais, c'est un petit
prématuré. Après main, ouais.
Voilà. Mais donc voilà, comme ce livre était totalement illisible, ben je me suis dit je vais en faire une version plus accessible et plus standard, on va dire. Donc là c'est le manifeste antinataliste, l'art de guillotiner le procréateur que tu évoquais, ça c'est un truc très très ordonné avec des chapitres, un raisonnement clair et limpide qui se suit. Et donc là je m'amuse, avec beaucoup d'humour noir évidemment et provocation, à analyser tous les vices qui se cachent sous les prétendues vertus de la procréation. Donc d'abord, d'une part, montrer toutes les bonnes raisons qu'il y a de ne pas faire d'enfants, elles sont évidemment assez nombreuses, et puis pour répondre aux critiques qu'on se prend tout le temps, cet accès d'égoïste ou de n'importe quoi, moi je me suis amusé à démontrer, entre guillemets, que les parents étaient quand même super sadiques, super égoïstes, super immatures, donc voilà, donc je retourne totalement l'argument contre eux, et voilà, j'essaie de développer les différentes thématiques qu'on évoquait tout à l'heure, child free, antinataliste pur, radical et dénataliste. Et là, disons, j'ai essayé de proposer un petit concept qui pourrait être utile pour justement éduquer, on en parlait tout à l'heure, et conscientiser les gens aux problèmes écologiques et aux problèmes démographiques. C'est le concept de surpollue population. Parce que tu vois, encore aujourd'hui, tout le monde parle tantôt de pollution, tantôt de surpopulation, mais en fait, les deux aujourd'hui sont totalement intriqués, et je veux dire, c'est vrai malheureusement aujourd'hui pour les peuples même non occidentaux, pour les pays pauvres, qui sont obligés par leur nombre de déboiser pour tout simplement pouvoir planter des cultures, etc. Donc Aujourd'hui, on peut constater que tout homme, qu'il vive comme un occidental ou qu'il vive comme un africain ou comme un asiatique, donc très modestement, leur empreinte écologique est objectivement très faible, et c'est bien entendu à nous de réduire notre empreinte écologique et notre nombre d'enfants, ça c'est certain, et les aider bien entendu aussi s'ils le désirent à en faire moins eux-mêmes en ayant accès à la contraception, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, même des gens dont l'empreinte écologique est effectivement soutenable, malgré tout, le nombre fait que la destruction de la nature et des biotopes a lieu. Donc aujourd'hui, il faut vraiment intriquer les deux concepts de pollution, pollution au sens large, mais destruction de l'environnement, hein, la déforestation, l'érosion des sols due à la déforestation, etc., c'est une forme de pollution. Donc il faut lier ces deux concepts en un seul, et c'est pour ça que moi je propose de parler de surpollue population, pour cesser de distinguer les deux et de se déculpabiliser en disant ben, si on pollue un peu moins, si on baisse le chauffage un degré, si on met un gros pull, gna gna gna, pour moi ce sont des demi-mesures qui n'entrent même pas les demi-mesures, ce sont des mesures hypocrites qui cherchent juste à permettre aux gens d'avoir bonne conscience. Voilà, ça doit être beaucoup plus radical que ça, hein. Et bien entendu, allons-y, consommons moins, là, pour la jouissance de torpiller les salopards, les capitalistes et toutes les grandes industries multinationales, donc ça c'est certain, mais c'est pas en consommant un peu moins qu'on va résoudre les problèmes environnementaux. Voilà, je veux dire, la décroissance économique et démographique, elle doit être radicale. Certains experts proposent de descendre à 500, 600 millions de personnes, je comprends vraiment bien, par exemple, et non pas du tout en massacrant les gens, ce qui devait d'ailleurs se produire tellement il y a des problèmes environnementaux. Je veux dire, l'humanité qui se multiplie va finir par s'auto-détruire à la longue, alors que ça serait tellement plus agréable de laisser la population décroître gentiment en n'ayant pas d'enfants du tout idéalement, ou bien juste un ou deux, puisque le taux de renouvellement par femme est de 2,1 enfants par femme. Donc il suffirait vraiment d'encourager ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, en donnant vraiment des primes à la non-procréation. On pourrait imaginer, on te donne 1000 euros pour te récompenser de tout le bien qui fait à l'humanité et à l'environnement, de 1000 euros par mois, tant que t'as pas de gosse, quoi. Bon, voilà, ou même 2000, pourquoi pas. Donc, mon projet écologique se réduirait très vite, et il y aurait plus de raison de faire des gosses pour des mobiles économiques ou autres. Voilà.
Oui, et pour toucher les allocations familiales, par exemple, il y a ça aussi comme raison d'en quoi faire. Je dis, il y a la raison économique aussi de faire des gosses pour les allocations familiales à partir du troisième et tout ça aussi, hein. Donc, oui, après, après, voilà, quoi. Mais donc, voilà. On va juste écouter encore un morceau. Et donc, c'est Je n'irai jamais travailler d'Harold.
L'avenir appartient à... ont de longs poils dans le dos. Je n'irai jamais travailler. Je n'irai jamais travailler. J'aime, j'aime tellement mon lit. J'y passe toutes mes après-midi. J'aime, j'aime tellement mon lit. J'y passe toutes mes après-midi.
Forêt reclus à l'Elysée sur Radio 103, www.radiopéril103.org sur Internet. Et voilà, donc Théophile, je voulais te parler pour finir cette émission d'une certaine statue de Léopold II qui a été peinturlurée le 9 septembre 2008 avec de la peinture rouge. Donc tu as des infos là-dessus, Théophile? Est-ce que tu as à voir avec quelque chose là-dedans, hein?
Léopold II, évidemment, il est peu connu en France. Hein. Oui. Voilà, en Belgique, c'est un roi qui est très connu, mais on ne connaît pas nécessairement toutes ses exactions. Donc c'était le second roi des Belges, et qui vivait à la fin du 19e siècle. Et disons, c'est lui qui s'est approprié, à titre privé, il faut bien le savoir, tout le Congo. Donc là, le Congo, je crois, c'est 80 fois la Belgique. Et il s'en est fait sa propriété personnelle. Il a donc colonisé avec l'aide de Stanley et de plein d'autres salopards. Et voilà, il a donc exploité totalement le peuple congolais, il les a réduits en esclavage, il les a acculturés évidemment, il les a menacés, les femmes ont été violées, les villages ont été pillés, brûlés, parce qu'il fallait récolter du caoutchouc, comme c'était la grande époque du développement de l'automobile. Léopold II comptait faire fortune, et il a fait fortune d'ailleurs sur ce compte-là. Donc voilà, on débarque en Afrique, on arrive avec des soldats et plein de petits salopards, et on réduit toute une population en esclavage, on y fait régner la terreur, on bousille tout le pays, voilà, donc c'était vraiment, je ne dirais pas un génocide, parce que bien entendu son intention n'était pas de détruire le peuple congolais, mais bien de l'exploiter jusqu'à la moelle, et donc des gens mouraient de maladies, de surmenage, etc. Donc on lui attribue, ça c'est très difficile à évaluer, certains vont dire 1 million de morts, d'autres vont dire 10 millions, donc là, enfin, peu importe le nom, c'est la mentalité totalement facho qui compte, et ce type, voilà, c'est Léopold II, reste valorisé en Belgique, tu vois, il y a des statues comme ça, comme c'était un chevalier. Non, il n'y a pas une seule statue de Louis Michel, par exemple, à Bruxelles, mais il n'y en a pas Lumumba non plus, mais il y en a une, il y a plusieurs de Léopold II à Ostende, à Bruxelles, à Mons, dans la plupart des villes belges, une statue tout à fait monumentale, tu vois, donc moi je me suis dit, ça suffit, il faut vraiment déboulonner ces statues, dans le meilleur des cas, les mettre au musée, pour les mémoires, pour la mémoire des générations futures. Et bon, idéalement, peut-être pourquoi pas recycler la matière première en faire bon usage. Donc voilà, moi j'ai escaladé ces statues avec un pot de gouache, j'ai enduit tout le torse de ce criminel contre l'humanité, de ce serial killer qui était Léopold II, pour attirer l'attention du gouvernement là-dessus et demander donc qu'on déboulonne ces statues et qu'on cesse de valoriser des criminels contre l'humanité. Sinon, ça n'a pas de sens, je veux dire, de demander aux jeunes générations d'avoir des idées, des valeurs pacifistes, humanistes et autres, puisque glorifier un serial killer, ça va pas du tout dans ce sens-là, quoi.
Ben, c'est ça. C'est ça, t'es schizophrène, un peu. Et t'as eu des soucis par rapport à ça, après? T'as eu les flics, t'as eu quelque chose, t'as eu une amende, t'as eu...
Bah là, je suis en procès. Évidemment, les flics sont arrivés quelques minutes après que j'ai commencé. Donc, j'ai quand même eu le temps d'escalader la statue. Les médias, là, ont vraiment fait notice et bouche cousue. Ils étaient présents pour assister au truc et leur relayer. Mais les flics n'étaient pas sur place. Donc là, c'est bien. Les journalistes ont vraiment pas du tout fait le jeu du pouvoir. Et les flics sont arrivés quand j'étais déjà en train de peinturlurer le tyran, et ils m'ont demandé de descendre, et donc j'ai dit, bah oui, je vous rejoins dans un instant, mais je termine mon travail, voilà, donc j'ai tout mon temps, parce que c'est une statue gigantesque, une statue équestre, donc quand t'es dessus, oui. on peut plus te faire descendre, quoi. Ils peuvent quand même pas tirer dessus non plus, donc là, ils étaient très emmerdés, c'était du genre, qu'est-ce qu'on fait, chef, quoi, tu vois, donc ils savent rien faire d'autre dans ce cas-là que d'attendre que tu descendes, et ça, c'est une idée, évidemment, bah, moi, que je suggérais d'appliquer, voilà, par plein de contestateurs sans prendre statut, sans prendre des symboles de pouvoir, c'est une forme d'entartage, ça rejoint un petit peu le principe de l'entartage de Noël, et donc il faut savoir que quand on montre les statuts pareils, on est absolument indévisable personnellement, voilà, les flics peuvent venir, ils peuvent être à 200, n'importe quoi, t'as tout le temps de barbouiller, le problème, bon, c'est que c'est être considéré comme dégradation de bien public, c'est totalement hypocrite, parce qu'il suffit de prendre de la gouache pour enfants, pour gosses, et ça se lave à
au Kercher.
Oui, voilà, au Kercher.
Comme on aime dire ici en France, au Kercher.
Voilà, exactement. On pourrait demander à Sarkozy de s'en occuper. Ouais. Il m'a mis bien cet outil. Donc, voilà, les anarches salissent les statues et Sarkozy vient les nettoyer. Pourquoi pas? Ça serait dur, ça.
Oui,
ça serait quelque chose de rigolo. Mais donc, voilà, ce sont des petites idées. Mais c'est vrai que là, je suis en procès à cause de ça. Il laisse pas tomber parce que, ben, c'est un acte contestataire à leur goût. Alors qu'à côté de ça, je veux dire, il y a plein de choses violentes qui sont pas condamnées. Donc, ça montre bien la mentalité de l'État, quoi. Mes symboles, mais par contre, l'État, évidemment, laisse la merde se développer, laisse la violence, et les militaires sont bien entendu applaudis chaque 14 juillet en France et chaque 21 juillet en Belgique, donc vive les armes, à mort le sexe et à mort la contestation, ça c'est le raisonnement de l'État.
Voilà. Et les plaisirs, et les jouissances,
voilà.
C'est ça. Donc tu risques combien avec cette histoire, en fait, excuse-moi, je te lâche pas avec ça, mais tu risques combien?
Bah écoute, là sur le plan purement théorique, mais bien entendu, je veux dire, ça débouchera sur un non-lieu très probablement, mais sur le plan théorique, je sais plus, c'est quelque chose comme quelques mois de prison et 5 000 euros d'amende, un truc du genre, quoi. Mais disons, ici, je me sens totalement à l'aise parce que j'ai sali et j'ai payé le nettoyage. Les pompiers m'ont envoyé une facture. Ils se marraient bien, d'ailleurs, parce que quand j'ai été relâché le lendemain après une vingtaine d'heures de cachot, c'était sur mon chemin depuis le palais de justice pour rentrer chez moi, et je suis donc repassé voir la statue, et les pompiers étaient en train de la nettoyer, justement. La lance à l'incendie, ils étaient assez morts de rire, parce que j'étais toujours couvert moi-même de peinture, évidemment on te donne pas de quoi de changer chez les flics, et ils m'ont reconnu, ils m'ont dit c'est vous qui avez fait ça, je dis tout penaud un peu, bah ouais, alors c'est vrai que là c'est gris, ouais ça nous change l'incendie et tout, c'est cool, donc voilà, donc les pompiers m'ont envoyé la note, qui était de l'ordre de 400-500 euros au total, j'ai payé, voilà, donc j'ai sali, j'ai payé le nettoyage, donc pour moi...
Tu effaces tes bêtises tout de suite. Tu effaces tes bêtises tout de suite, ce n'est pas possible.
J'ai pas compris.
Non, je disais, faut que tu effaces tes bêtises tout de suite, parce que c'est pas bien de peindre comme ça. Nous ici, on est en Dordogne, tu sais, on est dans le Périgord.
Ouais.
Et ici, tu sais, c'est le pays de l'homme, hein, avec l'homme de Cro-Magnon et tout ça, tu sais, les grottes de Lascaux et tout, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
c'est quand même nos ancêtres, enfin les ancêtres des tailleurs de maintenant, quoi, de peindre sur les murs ou sur des statues.
Donc, bah ouais, c'est
embêtant de mettre tout le monde en prison comme ça, parce que c'est quand même voilà, nos origines aussi.
Les hommes préhistoriques qui peignaient les cavernes étaient des tagueurs voilà, c'était des précurseurs. Bon, mais je sais pas, il y a peut-être des jeunes polices à l'époque, c'est peut-être pour ça qu'ils peignaient dans les cavernes, en fait, pour échapper aux flics.
Aux flics qui tournaient autour. Mais pas sur les murs dehors. Très bien, Théophile. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme bouquin, alors, parce qu'on va faire un peu genre culture, là.
Au niveau antinataliste, alors, pour faire un thématique du jour. Bah disons qu'il y a, là c'est facile à retrouver sur le blog de la fête des non-parents, il suffit de taper fête des non-parents sur un moteur de recherche, ça tombe directement sur notre petit blog, et là il y a une petite bibliographie, donc au niveau des Child Free, bah, il y a évidemment Corinne Maier, No Kid, 40 bonnes raisons de ne pas faire d'enfants. Il y a des gens en comédie de Valais aussi qui ont écrit dans ce sens-là. Et puis alors au niveau des natalistes, donc pour des raisons écologiques, là il y a deux petits bijoux. En plus c'est vraiment de l'humour noir, c'est savoureux à lire. Ouais. Moi je conseille vraiment ces deux ouvrages-là, avec celui de Corinne en priorité. C'est Michel Tarrier, Faire des enfants tue, entre parenthèses, La planète, et L'humanité disparaîtra, bon débarras. Donc ça, ce sont deux ouvrages, trois ouvrages si on y ajoute celui de Corinne, tout à fait savoureux. Et alors pour les antinatalistes pur et dur, à la Suron, à la Schopenhauer, etc. Il y a un tout grand monsieur qui s'appelle Roland Jacquard, qui a écrit Le cimetière de la morale notamment, mais aussi beaucoup d'autres ouvrages, où là, il ne cesse de critiquer les procréateurs, il est dédain de mettre un enfant au monde. Donc voilà, Corinne Maillard, Michel Tarrier, Yves Pacalet et Roland Jacquard, tout à fait savoureux à lire. Qu'on soit d'accord ou non sur l'idée, on se marre bien en les lisant.
Et tu peux donner l'adresse du blog, là, tu l'as sous les yeux, ou pas justement des noms parents?
Non, j'ai pas l'adresse.
Ouais, mais de toute façon, sur le moteur
de recherche. Fête de nos parents, ouais. Si ça peut fait de nos parents sur un moteur de recherche, et c'est le premier résultat. Donc, fête de nos parents, facile à retenir.
Oui, après, il y a le site aussi de Noël Gaudin, donc, aussi, mais je l'ai pas sous les yeux aussi, mais,
Ah, le site de Noël, c'est Gloop. Oui, là, c'est un peu plus difficile à trouver. C'est gloopgloop.be. Donc, ah, le cri des Antarctores, gloopgloop.be.
C'est excellent comme site d'ailleurs aussi. Et donc voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Enfin, souhaiter, c'est pas très très bon à dire, mais bonne continuation sans enfants.
Oui, tout à fait. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Là, beaucoup se marrer avec les amis, révolter, faire l'amour le plus souvent possible et éviter de faire des enfants. Voilà, c'est à peu près. Le mieux qu'on puisse nous souhaiter. Voilà, je le souhaite à plein de gens aussi d'ailleurs.
Ouais, ouais. Ça c'est clair. Bon, ben on t'embrasse et puis on te dit à très bientôt. Théophile, tu reviens.
Je t'embrasse aussi, à tout bientôt, et merci pour votre invitation et félicitations pour votre émission où il y a enfin une vraie liberté de parole. Ça, c'est vraiment un pur bonheur. Voilà.
Oh.
Bonne soirée à tous.
Bah, oui, alors là on va se quitter avec, donc je reprends mes fiches, c'est Konono numéro 1, c'est ça, c'est Jiname. Et je remercie encore Théophile, Fabrice et Romain. À dans 15 jours. Au revoir.
Bacola.